Bonjour. À force que la formule soit répétée, ressassée, déclinée, elle avait fini par prendre la force d'une évidence. Il y aurait dans la République des territoires perdus. Comprenez évidemment les banlieues pauvres. Alors, adopté d'un livre sur la décadence de l'école, livre publié en 2002, il a fallu attendre 16 ans pour que la riposte arrive sous la forme d'un livre, là encore, recueil collectif de témoignages d'enseignants et livre titré « Les territoires vivants ». De la République. Alors les enseignants dont les témoignages redonnent le moral, les enseignants qui ont contribué à ce livre, ne voient-ils pas de leur côté la réalité avec des lunettes un peu roses? C'est la question que nous allons leur poser tout au long de, enfin poser à trois d'entre eux tout au long de cette émission, Linda.
Oui, trois d'entre eux, tous enseignants de la banlieue parisienne. Donc on n'a pas réussi à faire venir vos confrères et vos consoeurs des villes voisines. On va commencer avec vous, Camille Taillefer. Vous enseignez l'histoire-géographie au lycée Jacques Feder d'Épinay-sur-Seine, donc dans le département de la Seine-Saint-Denis. À vos côtés, Amaury Pierre, vous êtes professeur d'éducation musicale au collège Joliot-Curie à Stain, en Seine-Saint-Denis. Et Elsa Boutteville, vous êtes professeur des écoles, donc en banlieue parisienne. Vous êtes toujours en poste à l'école Renaudel de Montrouge, dans les Hauts-de-Seine.
Alors, primaire, collège, lycée, donc tous les âges sont représentés, c'est très bien pour avoir la plus grande variété de témoignages possibles. Alors, d'abord, avant de reprendre une par une, finalement, les idées reçues nombreuses qui ont été charriées par ce livre, Les territoires perdus de la République, un petit échantillon de la manière dont il s'est imposé dans le discours politique depuis des années et des années, grâce à ce montage réalisé par Adèle Bello.
Qu'est-ce qui est le plus payant ? Harceler les jeunes en recherche d'emploi, les humilier, laisser secret à la marge de nos villes, des vastes territoires perdus pour la République et pour les entreprises.
Il parle des territoires d'extrême droite, comme il parlait des banlieues dans les années 90, où les socialistes ne faisaient rien, paupérisaient les banlieues, et parlaient des territoires interdits et des territoires perdus de la République. Voilà la vérité.
Nous avons en effet toutes les chances de reconquérir les territoires perdus de la République parce que nous n'acceptons plus aucune entorse à la République.
La lutte contre le terrorisme islamiste appelle bien sûr un arsenal sécuritaire, mais elle exige cette lutte aussi de ne rien céder, de ne rien céder sur nos valeurs, sur ce que nous sommes, de reconquérir tous les territoires perdus de notre République.
Il n'y a aucun territoire perdu dans la République. Il y a des territoires où il n'y a plus de projet parfois, parce que le doute s'est installé.
Voilà, c'est-à-dire que même pour dire qu'il n'y en a pas, on a recours à cette expression. Je vous ai vu soupirer particulièrement sur l'extrait de Najat Vallaud-Belkacem.
Oui, parce que je trouve dommage de parler de reconquête. Ça laisse à entendre qu'il y avait effectivement des territoires perdus qu'il s'agissait de reconquérir. Et je trouve ça dommage de l'entendre dans la bouche de cette ministre qui, par ailleurs, à mon sens, a proposé des choses intéressantes.
Alors, on va prendre une par une, enfin pas toutes les idées reçues charriées par cette notion de territoire perdu, parce que toutes ces idées reçues sont contrebattues dans votre livre collectif par des témoignages. Et je pense que le plus intéressant, c'est effectivement de les découper en rondelles de saucisson, une à une. Alors, en commençant par la première de ces idées reçues, enfin une des premières, il régnerait dans ces territoires perdus, dans un certain nombre d'établissements scolaires, une certaine complaisance avec le terrorisme islamiste.
Alors on va commencer avec la minute de silence. C'était quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo. Le gouvernement a décrété donc une minute de silence obligatoire dans les établissements scolaires, mais elle n'a pas toujours été respectée dans certains établissements, notamment des quartiers populaires, et y compris dans les classes primaires. C'est ce que montrait un JT de TF1 et de France 2 il y a quelques temps. On va regarder.
Dans certains établissements, les hommages silencieux ont dérapé, entachés par des sifflets, des protestations.
J'ai des copains, ouais, ils voulaient pas faire une minute de silence parce qu'ils se sentaient insultés par la caricature. Donc ouais, ils se disaient ça sert à rien.
Je peux comprendre les gens qui ont refusé de faire les minutes de silence.
Ces élèves, eux, nous disent avoir été bouleversés par les attentats, mais blessés aussi par Charlie Hebdo et ses caricatures du prophète.
Ok, on a le droit de faire des caricatures, il y a la liberté d'expression, mais on a atteint un certain degré là, en fait. Il ne faut pas aller dans les limites, parce qu'on s'y attendait. Ouais, ils sont allés beaucoup trop loin, je trouve.
C'était une attente à des musulmans, mais pas au point de prendre la vie d'un homme. Ça, c'est inacceptable.
Éric Bettencourt est enseignant de CM2 dans cette école de région parisienne, en zone sensible. Dans sa classe, les trois quarts des élèves ont refusé de se recueillir. Ils n'ont que 10 ans.
Les premiers propos choquants étaient que les meurtres étaient justifiés, puisqu'il était interdit à leur avis de faire des blasphèmes et d'insulter donc leur prophète par les dessins ou par la parole. Et ce qui était également choquant, c'est de les entendre se considérer, enfin considérer les journalistes comme s'étant suicidés, puisqu'ils n'avaient pas cessé leurs dessins malgré les menaces. Dès 10 ans, ils ont, de par les réseaux sociaux, de par les grands frères, les grandes sœurs, ils ont l'impression que la moitié de la population, au moins, se dresse contre tout ce qui est musulman.
Alors, une question super simple. Est-ce que dans vos trois établissements respectifs, se sont manifestées des réactions de l'ordre de celles qui sont décrites dans ces reportages de TF1 et de France 2 ? De près ou de loin, hein, de quoi qu'il s'agisse ?
Moi, j'enseignais à l'époque en BTS, dans le lycée Jacques Feder toujours, mais en BTS, donc j'avais des adultes. Donc j'ai absolument pas, enfin je dis donc, je devrais peut-être pas dire donc, mais en tout cas, et en tout état de cause, j'ai pas du tout eu cette réaction-là, du tout, du tout. Et au contraire, j'ai plutôt eu des étudiants qui sont venus tout de suite dire « c'est pas ça l'islam, madame, ils ont pris la vie de gens, c'est pas ça ». Et dans une attitude, enfin, en essayant de se justifier, donc ils étaient plutôt conscients que certainement ça allait… les stigmatiser encore plus. Non. Mais voilà, c'était des étudiants, ils avaient entre 20 et 22 ans. Donc peut-être que là,
c'est pas,
en l'occurrence...
C'est pas tout à fait pareil. Amaury Pierre ?
Moi, je n'étais pas encore enseignant.
Ah d'accord, bon, bah, alors, ok. Alors vous passez votre tour, Elsa Boudville.
J'étais enseignante. Nous, en plus, ils étaient beaucoup plus petits. Mais pour autant...
Vous aviez quoi, des maternelles à l'époque ?
Non, là j'étais au CP.
Vous étiez au CP ?
Et au CP, c'est un peu ce que j'avais montré dans le film. Je ne sais pas si on verra...
On va voir une partie du film.
Mais c'est tout le travail d'après ça. Par contre, il y a une image qui est jolie et qu'on ne verra pas, donc je vous le dis. Il y a notamment un enfant qui s'appelait Zakaria qui réagit, donc on engage un débat, un échange. Et il me dit, moi, hier soir, le lendemain des attentats, on a pleuré chez moi en regardant la télé. Je dis, il me dit oui, parce qu'on était vraiment triste pour notre religion. Et ce genre de choses, ça existe aussi. Des gens qui se sentent en décalage par rapport à ce qui se passe, qui le disent ou qui craignent qu'on les assimile très très vite, et c'est ce qui se passe beaucoup aussi, d'emblée parce qu'ils sont musulmans, donc on fasse l'amalgame. Et lui disait qu'il était triste pour sa religion, parce que sa religion, c'était pas ça.
Alors, vous
et ça c'est des images qu'on devrait voir davantage.
On va en voir des extraits. Alors, vous pouvez nous dire deux mots sur ce film. Quand est-ce que vous avez décidé de le faire ?
Au lendemain des attentats.
Vous tournez pour la première fois au lendemain du 7 janvier.
Oui. Je voulais montrer en fait dans une classe justement ce qu'on pouvait essayer de réfléchir autour de... On parle beaucoup des valeurs de la République, des valeurs de la République et de la laïcité, de toutes ces questions qui touchent, qui ont émergé du coup encore plus. Et donc j'ai pris la caméra, oui, je me suis dit on va voir ce qu'on peut nous faire. Ils sont petits avec des petits-enfants déjà, parce que je pense qu'il n'y a pas d'âge pour attendre, il faut commencer dès la maternelle. Alors,
vous dites j'ai pris la caméra, mais en même temps on voit bien que ce n'est pas vous qui filmez là. C'est-à-dire, il y a...
Non, alors là, parfois je filme en même temps que je parle, là j'ai posé un pied, mais j'ai pris
la caméra. Il n'y a pas d'autres adultes dans le dispositif. Enfin, vous êtes assise en rang avec vos élèves. Ouais. Et alors on va tout de suite voir un premier extrait, Linda. Oui, non, pardon. Oui.
J'aimerais juste revenir un peu sur ce qu'on vient de voir, là, notamment sur la classe de primaire. Enfin, ce qui est intéressant, c'est pas. C'est pas tant le moment donné de ce qui s'est passé avec ces élèves qui refusent de faire la minute de silence. C'est ce qui se passe avant, c'est ce qui se passe après. Déjà, est-ce que la minute de silence, elle a été imposée d'un coup comme ça, du jour au lendemain ? J'arrive le lundi matin, je dis, dans une heure, on fait une minute de silence. Ça me semble un peu rude. Il faut contextualiser. Je pense pas que les élèves aient ignoré les attentats.
Je vous arrête parce que je crois que ce qui est important, et moi ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans votre livre, c'est les témoignages. C'est les témoignages des enseignants qui racontent voilà ce qui se passe dans mon établissement, voilà ce qui se passe dans ma classe. Et je crois que c'est en ça que le livre est fort. Alors disons, vous n'étiez pas prof en 2015.
Non.
Bon, alors vous passez votre tour sur 2015. et on en vient donc au film de Elsa Boudville.
Oui, alors on est totalement en immersion hein, dans ce film, on est entre les quatre murs de cette classe et en plus vous n'hésitez pas à aborder tous les sujets avec des tout-petits, donc c'est des CP, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des sujets complexes, la religion, le sexisme, l'identité, le racisme et même donc le terrorisme au lendemain des attentats contre Charlie Hebdo. On va regarder cet extrait.
musique avant. Il me dit que je dois aller dans. Je vais bientôt aller dans un foyer. Dans un foyer où il y a des. Où il y a les gens en prison qui m'ont fait du mal. Où il y a des chiens aussi qui sont méchants avec des enfants méchants. Moi, je sais pas ce qui m'arrive dans la tête parce que moi, je suis méchant. Parce que j'ai tapé les gens, j'ai pas dit à les gens, j'ai les poussé, j'ai les donné des coups de poing comme ça. Et parce que moi, je suis un kouachi. Je suis méchant.
Mais non, t'es pas méchant, Hubert, on en a déjà parlé.
Alors, c'est une séance de...
J'avais choisi l'extrait. Hein.
Bien sûr, évidemment. C'est une séance de tournage qui dure combien de temps, là, ce jour-là? Combien de temps vous tournez,
Il n'y a pas de temps. Là, il y a un moment où j'essaye d'attraper les moments où, justement, ça se raccroche à tout ce qui tourne autour des attentats. Bon, lui, c'était un enfant extraordinaire. Donc, il était... pour moi, c'était de l'aubaine qu'il soit là. Mais cette scène-là, elle dure quoi? 4 minutes, ce jour-là.
Et alors, dans la discussion collective, comme ça, tout d'un coup, vous avez un gamin qui vous dit « Moi, je suis méchant, moi, je suis un kouachi. »
Non, lui si faudrait reprendre son histoire, mais sur toute l'année, il se vit comme un mauvais, comme un méchant, sans doute. Il a une situation très compliquée, une vie de famille très, très, très lourde. Donc, il s'est déjà identifié au mauvais garçon, au méchant. Il est en échec, il est violent, effectivement. Et arrivent ces attentats, il a dû beaucoup en entendre parler chez lui, beaucoup regarder la télé, je pense aussi. Ce qu'il dit là, en fait, c'est que c'est pas qu'il a envie de tout casser, hein, mais c'est qu'il s'est déjà apparenté aux méchants, et comme à ce moment-là, on parlait beaucoup des frères Kouachi, il dit effectivement, moi, je crois que je suis un Kouachi.
Et ça arrive à beaucoup d'élèves, ou c'est vraiment exceptionnel?
J'ai entendu ça que de lui, en tout cas.
Et alors, dans le film, on n'entend pas votre réaction à vous derrière ce propos-là?
Je lui dis, ben non, t'es pas méchant, Hubert, on en a déjà parlé, parce que ce qu'il faut regarder, c'est le film entier. C'est-à-dire que j'ai fait en sorte de montrer que du début à la fin, il répète ses crises, il est en rupture totale, et c'est justement montrer tout le travail que j'essaye de faire avec lui, de le ramener et de le réintégrer, et de lui mettre de la pommade pour lui faire comprendre qu'il peut réussir. Il va réussir, d'ailleurs. Vous n'avez pas montré cet extrait-là.
Je suis confus, mais on ne peut pas passer tout le film dans le temps imparti à l'émission.
À la fin, on le sent beaucoup plus apaisé. Et d'ailleurs, je le connais aujourd'hui, il est en CM2. Il s'en sort très bien.
Ma question à moi, c'est sur votre réaction à vous. Parce que, je veux dire, dans les médias, on a entendu un tas de récits de gamins qui, dans les classes, s'assimilaient aux Kouachi ou avaient une vision positive des Kouachi, qui sont donc les deux terroristes de Charlie Hebdo. Et on a entendu ça. Et donc, un enseignant qui entend un truc comme ça, dans la bouche d'un enfant de... C'est un CP, hein?
Oui.
C'est dans la bouche d'un enfant de 6 ans. Mmh. Il fait quoi?
Je lui dis, non, Hubert, tu n'es pas méchant, on en a déjà parlé, parce que ce qu'on ne voit pas, donc je vous dis, c'est que c'est la millième fois que je lui adresse ces paroles. Puis après, il y a tout le reste. Qu'est-ce que je fais? Il y a le fait que je l'accueille dans la classe chaque matin en lui donnant toutes ses chances et toutes ses possibilités. Je l'aide à travailler pour qu'il s'améliore chaque jour. Qu'est-ce que je fais?
Évidemment, la phrase « je suis un Kouachi », vous ne la relevez pas.
Non, il ne dit pas « je suis un Kouachi ». Il dit « je crois que je suis un Kouachi ». Et il ne faut pas la prendre dans le sens où, justement, ça arrangerait tout le monde et ça ferait mousser toute la sauce là, qu'on veut encore faire monter. Il ne dit pas « je suis un Kouachi ». Il dit en fait sa crainte. Non, il dit sa crainte d'être le méchant et mauvais garçon, c'est ça qu'il dit. Alors cette image, elle peut arranger certaines personnes, je vois très bien comment elle peut être montée, dans le sens où, vous voyez, même au CP déjà, il y en a qui disent qu'ils sont des Kouachi. Moi, je ne veux pas qu'on s'en serve pour ça, parce que je le connais, ce petit garçon, je sais qu'il n'a pas dit ça.
A priori, on comprend plus qu'il s'identifie comme tel, et que là, c'est très grave.
C'est très grave. Effectivement, ce qui n'a pas laissé passer, et c'est ce qui a été le travail sur toute l'année et les années suivantes, c'est de lui faire comprendre que non, tu n'es pas méchant, tu vaux quelque chose, tu peux y arriver, tu peux t'en sortir, etc. Mais ce modèle-là, on l'a cassé avec le temps. Mais il ne faut pas s'en servir comme ça.
Camille, t'as à y faire.
Oui, alors moi je découvre l'extrait, je ne l'avais pas vu, et ce que j'entends là, c'est vraiment la détresse d'un petit garçon qui a très peur de ce qui pourrait lui arriver. Ce qui pourrait lui arriver dans le sens, si je continue à rester enfermée dans ma violence, si je n'arrive pas à faire taire la chose en moi qui fait ça, je vais finir comme un kouachi. C'est pas du tout. Moi, j'entends
mais
pas.
Mais on a compris comme ça. Nous voilà. Aussi, il faut que ce soit clair. D'accord. C'est comme ça qu'on l'a écrit. Et c'est pour ça aussi qu'on diffuse cet extrait.
Et du coup, c'est très différent, à mon avis, des élèves plus grands. Qui ont construit autre chose, notamment une posture de provocation. Alors évidemment, on est adolescent, un adolescent, c'est dans la provocation, sinon c'est qu'il ne va pas bien, et c'est peut-être même là qu'il faut s'inquiéter le plus, quand ils ne nous provoquent pas, quand ils ne viennent pas nous chercher. Et c'est vrai que moi, je me souviens de ce matin où il a fallu aller en classe, après ce jour, on était... on était sonnés, abasourdis, tristes. C'était quand même...
Comme tout le monde, oui.
Voilà, ouais. Comme tout le monde. Et donc, on est arrivé là avec nos élèves. Alors, moi, ça faisait déjà longtemps que j'étais dans le lycée. Donc, je veux dire, le changement de regard, je l'avais déjà bien opéré, quoi. La transition du jeune prof... parisien, parisienne en l'occurrence, qui fait le trajet à la prof qui est là dans le lycée, mais qui sait aussi ce qu'il y a autour. Cette transition, je l'avais déjà opérée, donc c'est un peu différent. Mais on arrive quand même aussi avec cette boule au ventre, cette angoisse de dire qu'est-ce qui nous vient de nous tomber dessus. Et un adolescent, il saisit tous les moyens d'aller bouleverser ou d'aller secouer ou d'aller tester l'adulte qu'il a en face de lui.
C'est ce qui vous est arrivé ?
Alors moi non, je vous dis, j'avais des BTS.
Ah oui,
et vraiment, là pour le coup, je ne peux pas dire ça. En plus, je les connais encore et ils m'en voudraient si j'allais raconter. Mais ce qui est certain, c'est que je n'ai pas arrêté de parler aux élèves dans la cour et j'en ai eu aucun qui m'ont dit « ils l'ont bien cherché ». Jamais, je ne l'ai pas entendu ça. Mais je vois très bien... dans quel contexte on pourrait l'entendre. Voilà. Et je pense que justement là, quand ça arrive, il ne faut pas s'arrêter à ça, surtout pas. Et c'est là que le métier d'enseignant peut être parfois compliqué. C'est que là, entendre ça, ça vient heurter des choses qui sont très vives en nous, quoi. Des choses vives en nous. Et c'est une blessure quand on arrive le lendemain. Donc comment faire pour que, quand le môme il vient toucher la plaie, la blessure... réussir à rester dans une posture pédagogique.
Alors, autre exemple, un peu dans le même registre de Didier Su, charrié par les fameux territoires perdus, on recenserait dans ces établissements scolaires d'innombrables atteintes à la laïcité. Linda.
Oui, c'était tout récemment, en juillet dernier, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, a été interrogé sur la lutte contre la radicalisation à l'école, c'était sur Europe 1, et il a dénoncé donc des atteintes à la laïcité, et à l'entendre, c'est considérable.
Nous avons créé une adresse spécifique pour les professeurs et les personnels de l'éducation nationale pour nous écrire à chaque fois qu'il y a un problème de laïcité. Ce n'est pas toujours un problème de radicalisation, heureusement, mais un problème d'atteinte à la laïcité. Et donc nous avons de l'ordre de 30 signalements par jour depuis que nous avons fait cela. Donc nous avons les idées claires. Alors ça a décru, évidemment maintenant c'est terminé, mais maintenant que c'est les vacances, mais dans la dernière période ça commençait à décroître. Mais on a bien vu au début qu'il y avait une attente pour signaler les problèmes.
Alors, qu'est-ce qui peut vous arriver de constater dans vos établissements ou dans vos classes qui puissent s'apparenter à des atteintes à la laïcité ?
Je ne vois pas.
Moi, si vous permettez, je trouve cette plateforme, elle est tendancieuse. Ça peut être très dangereux déjà parce qu'elle repose sur de la dénonciation numérique. Et je trouve que les manières sont déjà limites, mais ça, c'est mon avis personnel. Et au-delà de ça, la grande question, c'est qu'est-ce qu'une atteinte à la laïcité ?
Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, en ce qui vous concerne, dans votre établissement, d'un acte ou d'une parole ou d'un refus d'un de vos élèves dont on pourrait penser que ce soit une atteinte à la laïcité ?
J'ai eu des paroles ou des actes qui, pour moi, n'étaient pas des atteintes à la laïcité, mais qui, pour un autre professeur ayant accès à cette plateforme, pourraient l'être.
Par exemple,
une remise en cause de l'autorité du professeur. Ça pourrait être tout simplement ça, une atteinte à la laïcité.
Ou par exemple.
Le fait de retirer sa casquette, qui pourrait...
Comment ça, la casquette ? Je ne comprends pas.
C'est-à-dire que, par exemple, ou alors un foulard...
Non, mais la casquette. c'est quoi la casquette ?
Bien sûr, ouais, se couvrir la tête, ça va être un signe de... d'appartenance religieuse ou...
Attendez, est-ce qu'on pourrait donner des exemples précis ? Qu'est-ce qui vous est arrivé ?
Moi, rien.
Ah, d'accord.
Voilà,
d'accord.
Qu'on soit bien clair là-dessus. Mais je suis très, très dubitatif sur cette plateforme.
D'accord.
Et les 30 signalements par jour, il faudrait fouiller, regarder.
Mais, alors, fouiller.
Justement, il y a Libération a fait une enquête et qui a révélé justement le grand flou autour de ces chiffres et justement la nature de ces signalements. Ouais. Et parmi les faits signalés, il y en a qui sont avérés, en tout cas, qui ont été condamnés par la justice, notamment par exemple le port de bandana ou jupe longue, etc.
Alors, le port de bandana et de jupe longue. Alors là, on est dans un exemple particulièrement. Il y a eu des feuilletons, bandanas, etc. On a interdit le voile, donc elles sont arrivées avec des bandanas. Est-ce que le bandana est un signe religieux ou pas? Est-ce que c'est une atteinte à la laïcité? Vous avez Alors, même si vous n'avez pas d'expérience directe de port de bandana dans aucune de vos...
Des expériences de port de bandana. Mais c'est vrai que j'ai du mal à lier le bandana à une religion. Je ne connais pas cette religion. Voilà, les bandanas... Je me souviens, moi, lycéenne, je ne sais pas, on avait des kéfiers, on avait des Free Mandela, on exprimait des choses.
On va être concret. Excusez-moi d'être très, très concret, parce que de toute façon, si votre livre a du succès, ce qui est vraiment la chose que je lui souhaite, vous allez vous faire attaquer à mort sur le thème c'est des bisounours, c'est des bénis, oui, il ne voit rien. Donc, allons-y. Alors, cette histoire de bandana.
Donc, au lycée, parce qu'en l'occurrence, je ne sais pas, vous, peut-être au collège un peu, mais en l'école primaire, j'imagine que tu as moins de problèmes, Elsa. Voilà. Ouais. Donc, moi, au lycée, j'ai des. Il y a des moments où tout à coup on voit effectivement des choses qui sont des jupes qui rallongent, des cheveux qui se couvrent un peu plus, et puis aussi tout un jeu de dévoilement aux deux sens du terme, c'est-à-dire que moi je travaille dans un lycée où la grille est assez loin des bâtiments. Donc, cette espèce de tapis rouge, où il n'y a pas de tapis rouge, mais cette remontée de la grille vers les bâtiments donne lieu à tout un jeu de dévoilement. Voilà.
Vous pourriez décrire ce jeu de dévoilement.
Le jeu étant d'entrer, de franchir le seuil du portail le plus couverte possible, et puis de se découvrir petit à petit, sachant très bien qu'à l'arrivée, de toute façon, dans les bâtiments, si les filles restent couvertes, il va y avoir un problème, puisqu'on va les rappeler à l'ordre. Donc, j'ai aucune lunette rose, mais je regarde ça avec amusement, parce que je pense que ça fait partie d'un jeu qui est aussi propre à l'adolescence, toujours. Et que ce jeu, il faut le regarder en face, il ne faut pas l'ignorer.
C'est ce que vous avez fait.
C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas ignorer ça.
Mais est-ce que vous avez tenté d'entrer dans ce jeu avec ces adolescents?
Non, alors moi, je ne rentre pas dans le jeu, parce que moi, je suis une adulte prof, donc je ne rentre pas dans le jeu. Mais je montre par mon regard que je sais que c'est un jeu, que moi, je suis là pour marquer la limite, et que donc ça, c'est interdit. Mais ce n'est pas parce que c'est interdit que mon regard va changer sur l'élève. Ce n'est pas parce que c'est interdit que je vais porter un jugement.
Comment on fait pour signifier par son regard qu'on sait que c'est un jeu et qu'en même temps on signifie une interdiction? Vous pouvez nous faire le regard que vous leur faites là?
C'est pas évident, mais ça veut dire que c'est conserver la bienveillance, l'accueil. Voilà, l'accueil de nos élèves, de tous nos élèves. Mais c'est comme toujours, même, je ne sais pas, avec nos enfants, quand on en a, il y a toujours ça. Parce que si on va tout de suite dans la confrontation, c'est trop facile pour eux d'aller. Il ne faut pas faire ça. Donc
vous en parlez avec vos collègues enseignants, par exemple, de ce jeu de dévoilement. Vous êtes arrivé d'échanger sur vos réactions respectives, qu'est-ce que tu fais, comment tu le gères, comment tu le gères.
Bien sûr, parce que, surtout pour les jeunes collègues, je dis ça parce que moi, ça fait 13 ans que j'enseigne dans mon lycée, donc maintenant, je suis partie des vieilles, surtout qu'on est dans des lycées où le turnover est très fort, donc... Ça fait partie, je dirais, de la formation, d'entrer dans la profession. Comment je fais avec ça, quoi? Donc, je ne considère pas ça comme des atteintes à la laïcité. Non. Et je pense que...
Ce que vous décrivez, non. Puisque, de toute façon, dans la manière dont vous le décrivez, le règlement est respecté.
Oui, alors on pourrait décider que non, à cette grille-là, il faut voir tes cheveux en entier. Et on pourrait rigidifier ça. Mais je pense qu'en rigidifiant ça, on irait à l'inverse de l'objectif recherché, qui est quand même d'accueillir tous les enfants dans l'école.
Vous disiez tout à l'heure, il y a des moments où, c'est-à-dire que il y a des moments où ces comportements, ce jeu sont plus fréquents, plus accentués qu'à d'autres moments.
Oui, j'ai l'impression. Ouais. Alors, j'en ai pas fait d'études statistiques, mais j'ai l'impression. Il y a des moments de plus grandes, des moments, la fin de la seconde avec l'orientation, éventuellement sur des élèves en échec, on va voir des choses comme ça qui se font, et puis si éventuellement la difficulté scolaire est dépassée, on va avoir une élève qui était quasiment totalement recouverte à la fin de seconde, qui va de nouveau être en jean l'année d'après. Et c'est...
Alors c'est marrant que vous reliez ça au succès ou à l'échec scolaire, parce qu'une des choses très intéressantes que j'ai lues dans le livre, alors sur tous ces incidents, par exemple, sur ce qui est certainement considéré comme une atteinte à la laïcité, c'est l'exigence par certains parents de repas halal à la cantine. Et il y a un de vos collègues qui raconte dans le livre, qui a essayé de creuser le truc, et qui raconte qu'en enquêtant un peu auprès des parents, il s'est rendu compte qu'en fait, ce qui se passait, c'est que les parents n'avaient pas les moyens de payer la cantine et qu'ils avaient dissimulé ce problème qui était un problème financier sous un prétexte, je veux pas qu'ils mangent, enfin, je voudrais qu'ils mangent halal. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'avais jamais entendu ni lu nulle part, et je trouve ça très intéressant.
Mais les repas halal, de toute façon, maintenant, c'est complètement banalisé dans les écoles. C'est-à-dire qu'un enfant musulman qui s'inscrit à la cantine, on va lui demander est-ce que tu manges de la viande, du porc, pas de porc, halal, pas halal. Donc ça, en soi, ça...
Dans toutes les écoles primaires, vous voulez dire ?
Toutes, je n'ai aucune idée, mais moi, ça m'étonnerait que dans l'école où on enseigne, c'était... Samia, ça ne soit pas courant. Enfin, ça me paraît très courant, quoi, aujourd'hui. On adapte les menus, les enfants, quand ils vont à la cantine, ont le choix de manger de la viande, pas de viande.
Oui, alors, de viande ou pas de viande, là, on parle du halal, en fait.
Non, il n'y a pas de halal.
Oui. Oui, là, on parle du halal. Il n'y a pas de halal dans les cantines. C'est-à-dire qu'on y a des repas de substitution, effectivement, pour ceux qui ne mangent pas de porc.
Oui, oui.
Mais le halal, mais pour l'instant...
Oui, c'est vrai,
voilà. Exactement. Il y a des exigences de certaines familles, d'après ce qu'on entend dans certains médias.
C'est bien de le préciser. Hein,
voilà.
Oui, c'est vrai.
Alors, oui.
Pour finir avec ces histoires d'atteinte à la laïcité, je voudrais qu'on remarque que c'est aux filles. Hein, c'est aux filles qu'on demande que la jupe soit pas trop longue ou pas trop courte. Parce qu'on parle de nos élèves filles qui ont des jupes trop longues, mais on ne parle pas d'établissements où on demande aux filles d'avoir des jupes plus longues. Donc il y a quand même quelque chose que moi j'aimerais bien qu'on note là. C'est aux femmes qu'on demande d'être vêtues de telle ou telle manière dans l'espace public, pour des raisons supérieures, sociales, étranges. Je me souviens qu'on a dit aussi aux femmes qu'il fallait... je me souviens d'une phrase qui disait que la femme française avait les seins nus sur la plage. Ah bon ?
Après, c'est pas du même ressort. C'est-à-dire que quand on reproche, par exemple, à une élève de mettre une jupe trop courte, on n'accuse pas la religion d'être peut-être derrière ça et d'être soumise.
Non.
En général, alors quand on interdit les jupes longues, il y a le sous-entendu derrière islamisme, etc.
Absolument, mais c'est quand même important de le montrer, ça. Comment ça se fait qu'on se mêle de savoir comment une fille doit être habillée ? Surprenant, non, dans une république qui proclame la liberté, l'égalité, la fraternité.
En même temps, non, mais comment ça se fait ? Vous savez très bien pourquoi on s'en mêle. On s'en mêle dans le cadre de, effectivement, un débat sur la laïcité à l'école et sur le refus de voir des signes religieux ostentatoires envahir l'école.
Oui, mais c'est les femmes qui emportent le poids. Je voulais juste le dire. Après, je suis pour, évidemment, que nos établissements restent des lieux où la laïcité est respectée, parce que ça permet à tout le monde justement d'exister ensemble.
Quel serait l'équivalent sur les garçons ? Je veux dire, quel serait un signe ostentatoire religieux chez les garçons qui serait l'équivalent du port du voile chez une fille ?
Je cherche le nom.
Un t-shirt avec une effigie. En soi, tout peut être une...
Oui.
Par exemple, un t-shirt Che Guevara, ça peut être considéré comme une atteinte à la laïcité. Après tout, je veux dire, ça prône un idéal politique. Ça peut très bien être une atteinte à la laïcité.
Oui, enfin, c'était pas un chef religieux. Hein. Bon,
la laïcité, ça ne s'applique pas qu'à la religion.
Ah, la laïcité, si, se définit quand même par... se définit en opposition à la religion, si.
Non, mais par exemple, nous, en tant que professeurs, on se doit de respecter...
La neutralité politique également.
Mais, bah oui.
Ah, c'est pas la même chose. C'est un autre concept, me semble-t-il. Hein. Le laïcité et neutralité politique, c'est un concept un peu différent. Alors, allons-y sur l'antisémitisme. l'antisémitisme et l'impossibilité. Non, mais on prend les thèmes les uns derrière les autres. Et l'interdiction ou l'impossibilité matérielle d'étudier la Shoah dans certains établissements. Impossibilité récemment rappelée par le Premier ministre en personne.
Le combat se joue à l'école, bien entendu. C'est toujours joué à l'école. C'est toujours un combat violent de dire ce qui s'est passé dans notre histoire. C'est toujours un combat violent, parfois, dans certains quartiers, d'enseigner ce qu'a été la Shoah. Et dans ce combat, qui est un combat, il faut accompagner les professeurs, il faut accompagner ceux qui ne doivent pas céder à la pression d'édulcorer, parfois, ou de renoncer à l'enseignement de ce qu'est notre histoire.
Alors, vous êtes prof d'histoire.
Oui.
Est-ce que c'est dur d'enseigner la Shoah ?
C'est dur d'enseigner la Shoah parce que c'est un épisode difficile, dur, terrible. On a beaucoup écrit dessus, aux limites du dicible. Donc oui, c'est difficile.
C'est dur pour le prof, c'est dur pour les élèves, c'est dur de quelle manière ?
Je fais pas comme Elsa parce que j'en ai pas les moyens. Je peux pas m'asseoir avec mes élèves en cercle au lycée. Mais en réalité, je le fais. C'est-à-dire que quand j'aborde n'importe quel sujet, je suis avec mes élèves, on est ensemble. Et donc, la Shoah, c'est un moment où il faut quand même être vraiment bien ensemble parce que c'est dur. Oui, c'est dur. Mais personnellement, depuis 15 ans que j'enseigne l'histoire-géographie, au collège et au lycée, j'ai jamais, jamais eu un refus de mes élèves d'aborder la Shoah et l'extermination de masse des Juifs d'Europe.
Alors, il faut dire les choses, faut appeler un chat un chat. Oui. Dans le préjugé et dans l'idée reçue, s'il est considéré comme difficile d'enseigner la Shoah, c'est pas parce que la Shoah est en soi un événement épouvantable, c'est parce que la Shoah concerne les Juifs.
Absolument.
Et qu'il est avancé qu'un certain nombre d'élèves pourraient avoir des réactions de rejet par rapport à un enseignement trop intensif, trop poussé de ce génocide qui concerne les Juifs par rapport à, un temps insuffisant qui serait consacré à la colonisation, à l'esclavage, c'est-à-dire à des crimes concernant les Noirs. Est-ce qu'il vous est arrivé de rencontrer ce genre de réaction dans vos classes ?
Ce genre de questionnement, oui, bien sûr, sur la question de la concurrence des mémoires et sur la place des différentes mémoires portées par chacun de mes élèves dans ma classe. Oui.
C'est-à-dire, oui. On vous le dit comment ?
On me dit « Mais quand est-ce qu'on va traiter de l'esclavage, madame ?» « J'espère qu'on va en parler. » Mais ça, on l'a déjà vu. Oui, effectivement, oui, ça arrive.
Et alors, la réponse de l'enseignante, là, c'est quoi ?
C'est que, oui, on traitera de l'esclavage, ou on l'a déjà traité. C'est aussi qu'on est dans une école en France, que c'est une histoire, que c'est un événement qui a marqué les consciences européennes, que ça s'inscrit du coup dans notre histoire nationale, que je suis prof d'histoire et qu'en histoire, on n'est pas sur la mémoire, mais bien sur un objet, on essaye d'objectiver justement
J'imagine qu'il vous objecte à ce moment-là que l'esclavage aussi, c'est un fait historique.
Ah, mais bien sûr.
C'est un fait historique qui concerne aussi des Français.
Absolument. Après, à titre personnel, on peut regretter parfois de ne pas avoir suffisamment de temps pour faire autre chose. Mais non, il ne faut pas que je dise ça parce que c'est pas autre. Enfin, j'aimerais pas faire autre chose à la place d'enseigner la Shoah, bien sûr que non, puisque.
Mais toujours des types qui sont impliqués une fois que. Le cours s'ouvre justement sur ce pan d'histoire.
Le cours se fait toujours. Enfin, j'ai jamais rencontré de difficultés pour faire le cours. Par contre, les questionnements sur parfois pourquoi, mais pourquoi, c'est quand même assez facile pour un prof d'histoire d'expliquer pourquoi on enseigne la Shoah. Enfin, je veux dire, là-dessus, on n'est pas désarmé.
Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dès qu'il y a une question par rapport à ce programme, il y a certains professeurs qui considèrent que c'est scandaleux et
non,
donc on a du mal à faire cours sur la Shoah.
Non, je ne crois pas.
Et que ça vient de là ?
Non, Je crois pas. Mais je crois qu'on est prof, mais on est aussi des citoyens. Donc on arrive aussi avec, bah avec tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit. Et donc effectivement, si on arrive faire notre cours sur la Shoah armée et inquiet et en ayant peur, on va crisper les choses. C'est un peu ce que je raconte dans l'article que j'ai écrit sur... sur l'expérience en allant au théâtre, voir Les Bienveillantes de Jonathan Little adaptées en néerlandais, l'extermination des Juifs d'Europe racontée par un bourreau homosexuel en néerlandais.
Voilà, je vous racontez effectivement cette sortie au théâtre pour aller voir cette pièce de 2h30.
3h30.
Pardon, excusez-moi. 3h30.
Oui, non, mais c'est...
3h30. Alors, en néerlandais, mais surtitré quand même.
Oui, oui, bien sûr. Ah, bah, bien sûr, oui. Mais ce que je raconte dans l'article, c'est que j'avais envisagé tout un tas de réactions de mes élèves parce que la Shoah, parce que l'homosexualité, parce qu'une pièce de...
Parce que le narrateur de la pièce est homosexuel.
Voilà, ouais. Et c'est important dans la pièce parce que du coup, il est aussi inquiété par ses supérieurs pour son homosexualité, invité à la cacher. Bon, bref, c'est compliqué.
Donc vous faites cette sortie, vous dites « Oh là là, un homosexuel, des histoires de juifs et tout, ça va être terrible.
Ouais, » Surtout mes collègues me disent « Non mais là, c'est la totale. » Un certain nombre de mes collègues me disent « Non mais en fait, je t'accompagne pas, c'est bon, ça va. » Bon, et finalement, la difficulté va venir de la salle où je vais avoir des spectateurs qui rejettent de manière très agressive la présence de mes élèves. Donc, je dis dans l'article, j'avais pensé à l'homosexualité, j'avais pensé à la Shoah, mais je n'avais pas pensé qu'en fait, ce serait nous qui ferions l'objet d'un rejet agressif.
Mais attendez, ils ont été rejetés comment et pourquoi ?
Ben, on s'est assis, tous ensemble, et puis la pièce commence, le narrateur arrive, il est debout face à la scène et il commence à dire « Si vous pensez que vous auriez été du bon côté, sortez de cette salle, cette pièce n'est pas faite pour vous. » Donc on prend ça quand même. Bon. Et là, dans la salle, évidemment, tout le monde commence à gigoter un peu. Et on connaît, quand on est habitué au théâtre, on sait très bien que quand il y a quelque chose d'un peu compliqué sur scène, tout à coup, tout le monde se met à tousser, à gigoter, on se mouche, enfin, tout un tas de réflexes, de défense, en fait, physique, quoi, qui
et
se mettent.
– Et vos élèves aussi, c'est ça ?–
Donc mes élèves gigotent aussi un peu, et puis il y a une dame qui leur dit « Sortez d'ici, vous n'avez pas votre place ici, vous n'avez pas votre place ici. » C'était extrêmement violent.
– Donc, difficulté d'enseigner la Shoah en raison d'une autre violence sociale qui s'exprime finalement en dehors de l'école.
– Oui, et dont on ne parle jamais, et voilà. Qui est…
Sachant que les bienveillantes, si mes souvenirs sont exacts, c'est pas la Shoah, c'est la Shoah par balle en Ukraine.
Ah oui, pardon, voilà. Sur les
Absolument.
Questions.
Sur les c'est la Shoah par balle. Ouais.
Et excusez-moi, juste Amaury Pierre, vous.
Vous en parlez beaucoup.
Oui, oui, parce que vous avez des collégiens et peut-être. Ouais. Vous avez des collégiens et peut-être que c'est là où les difficultés sont plus visibles finalement.
On n'a pas. Alors moi, je ne suis pas enseignant en histoire. Dans le cadre de notre projet
interdisciplinaire avec
oui tout à fait dans le cadre de notre Fabien. Projet donc avec Fabien Pontanier qui est donc mon collègue en histoire au même collège que moi et qui avec lequel on a coécrit un article ici effectivement on a présenté un concours le CNRD donc concours national de la résistance et de la déportation donc on a
c'est un concours dans toute la France hein.
Voilà, c'est un concours national qui a plusieurs phases. Évidemment, on a été amené à aborder la question de la Shoah dans le cadre de ce concours. Honnêtement, on n'a jamais eu de difficultés particulières pour enseigner la Shoah. Vraiment aucune.
Et aucune des remarques qui ont pu être faites à votre collègue, monsieur, quand est-ce qu'on parle de l'esclavage, etc. C'est
non,
jamais.
Non, moi j'en ai pas eu. Après, comme je suis enseignant en histoire, c'est-à-dire que moi je viens aussi apporter de l'interdisciplinarité, je ne faisais pas forcément des cours d'histoire. Mais dans le cadre de cette, j'ai jamais eu de difficulté. Par contre, effectivement, tout le bagage émotionnel que ça véhicule, ça oui, on le sent que c'est lourd à porter pour les élèves. On le sent clairement, c'est présent, quoi. Et.
Le véhicule, vous voulez dire le simple fait de parler d'un génocide.
Ah ben oui, complètement, voilà, c'est ça, et même pour nous, quoi.
Non, voilà.
Ils ont interviewé des anciens déportés, donc des déportés qui avaient été très jeunes, 14 ans, 17 ans, dont un qui est mort juste là, au début de l'été, hein, de ceux qu'on avait interviewés. Et c'est des gens avec qui ils ont noué des liens, à qui ils ont écrit des lettres, et... Il n'y a vraiment aucun rejet, en tout cas, vis-à-vis de la communauté juive, si on veut vraiment mettre les pieds dans le plat, absolument aucun.
Et bien justement, ma preuve qu'ils sont très impliqués, peut-être que vous pouvez rappeler qu'il y a 2 ans, justement, le collège Louis Curie de Stein avait remporté justement le concours national.
Voilà, oui, voilà. On a eu un...
Non, mais on n'entend pas assez souvent aussi.
Ah, effectivement, on a eu un prix.
C'est ces victoires dans les établissements des territoires, donc vivants.
Oui, c'est ça, exactement.
Vivants, bien sûr.
Avec une mention spéciale, passeur d'histoire. Et ça, on est très, très fiers pour nos élèves de cette mention, parce qu'on on considère vraiment qu'on est nous-mêmes, en tant que professeurs, on est des passeurs, c'est-à-dire qu'on leur passe le savoir, et que ce savoir, eux, vont le transmettre à leurs enfants, etc. quoi. Donc on espère bien, effectivement, que ce discours va passer aux générations futures.
Alors, dans ces territoires perdus ou vivants, est-ce que ce qui s'est perdu aussi, c'est les programmes scolaires dans leur intégralité? Est-ce qu'on y enseigne des programmes au rabais? Le thème revient également souvent.
Souvent et récemment, en 2015, c'était François Fillon, qui est l'ex-premier ministre de Nicolas Sarkozy. Il était l'invité d'RTL et il porte des accusations contre les choix des programmes scolaires. On va l'écouter.
Il y a une réécriture des programmes. Alors ça, c'est pas nouveau, les problèmes des programmes. Des programmes d'histoire qui est parfaitement scandaleux.
Mais ça, on mettra jamais tout le monde d'accord.
Oui, non, mais là, attendez, il y a 2 questions qui sont posées. Est-ce qu'il faut continuer à avoir des inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui écrivent des programmes avec qui sont d'abord hors sol et puis qui ont des visées idéologiques qui sont évidentes? Moi, citer les textes, mais en 5e, c'est obligatoire d'étudier l'islam, début, expansion, société et culture, et c'est facultatif d'étudier une société rurale encadrée par l'Église.
Mais parce que le christianisme est étudié en 6e.
Et en 4e, il est obligatoire en 6e. D'étudier un monde dominé par l'Europe, empires coloniaux et traite négrière, et il est facultatif d'étudier société et culture. On voit bien quand même qu'il y a un objectif qui peut partir d'ailleurs de sentiments, de bons sentiments, essayer de rassembler la nation française, mais on ne va pas la rassembler avec...
Alors, j'ai vu la prof prendre des notes attentivement. Alors, non, mais sur cette...
Peut-être mes collègues, ils ont aussi des choses à dire.
Sur l'enseignement de l'histoire, je ne sais pas.
Sur l'enseignement de l'histoire. Merci. Allez, Elsa.
Non, mais c'est vrai que je fais tout, moi, en fait.
C'est pour ça.
Donc, je fais aussi l'histoire. J'ai envie de dire l'inverse, c'est-à-dire que les nouveaux programmes d'histoire, là, de 2016, ont enlevé l'islam. Donc après, chacun fait ses choix pédagogiques, finalement, mais chacun fait ses choix. Mais ils sont très contents quand même quand, finalement, après des siècles et des siècles, avoir parlé du christianisme, on aborde l'islam, justement. Enfin, moi, dans ma classe, j'ai eu des parents qui m'ont dit qu'apparemment, ça leur a fait plaisir. Donc si on enseigne les religions, oui, il faut enseigner les trois. Enfin, les trois principales religions, ça me paraît normal.
Alors, ce que vous êtes en train de, c'est que dans les programmes de primaire,
oui,
l'islam a été supprimé.
Exactement, il n'y a plus.
Totalement, c'est-à-dire qu'on n'entend plus parler de l'islam d'aucune manière.
Si, on en entend parler, mais les programmes précédents faisaient un chapitre à l'islam.
Et maintenant ?
Eh bien, il n'y est plus, voilà.
Alors, on en parle de quelle façon s'il n'y est plus ?
Alors, on en parle quand Charlemagne a eu des rencontres, par exemple, avec des princes musulmans. On en parle, quand est-ce qu'on en parle ? Quand on voyage un peu dans le monde aussi. Mais on peut aussi faire le choix, qui me paraît pertinent, de se dire que si on aborde le développement du christianisme, on ne peut pas passer à côté du développement des autres religions. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je fais. Donc, soit on pose les trois sur la table, soit on risque de créer, là, une nouvelle fois, quelque chose qui ne va pas bien.
C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que concrètement, vous sortez du programme.
Moi, oui. Oui.
D'accord.
Mmh, je sors du programme.
Et alors, si vous êtes inspecté, qu'est-ce qui se passe ?
Bah, j'aurai un blâme.
D'accord. Mmh. Oui ?
Un blâme ?
Je sais pas. Je veux dire, qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui ? On veut quelle société ?
Ouais.
Voilà, c'est ça la vraie question. On veut quelle société ? Puis on veut continuer à alimenter le conflit des Juifs contre les musulmans, parce que c'était ça la question aussi un peu tout à l'heure. Donc est-ce que finalement un musulman en classe et des écoles massivement avec des enfants musulmans noirs, des quartiers, peuvent assister à un cours sur la Shoah sans tout casser ? Oui, a priori, ils peuvent s'entendre, ils peuvent entendre parler les uns des autres. Là, c'est pareil. Vous me dites, si un inspecteur vient, etc., Je lui poserai la question, qu'est-ce qu'on fait pour les enfants de demain? Comment je vais argumenter, moi, à l'enfant qui va me dire, mais en fait, moi, je suis musulman. C'est bizarre, parce que là, on a passé 3000 ans d'histoire, et on a pendant mille ans, tout le Moyen-Âge, vous nous avez parlé de christianisme, pas une seule fois, c'est comme si ça n'existait pas,
la naissance de... Vous avez eu ce genre de remarques? Précisément.
J'ai une maman qui m'a dit, une maman musulmane qui m'a dit qu'elle avait été contente de voir qu'on parlait de l'islam. Ça lui avait fait plaisir.
C'est plutôt une maman que le gamin lui-même ou la gamine elle-même.
Exactement, ça c'est vrai.
Oui, Camille Taillefer.
Je crois que le programme, c'est quelque chose qui nous permet, nous, enfin, c'est un outil pour nous. On est prof, on est recruté quand même à un niveau d'études assez important. On a un programme, c'est quelque chose qui nous permet de construire des axes. Et puis ces axes, ils nous permettent avec nos élèves de parcourir en fait le programme en choisissant des problématiques. Alors évidemment, moi je suis en lycée, alors j'ai des grands, mon objectif c'est de les préparer au post-bac. Bon, mais en tout état de cause, le programme ne doit pas être, et ça je l'ai entendu de la bouche d'un inspecteur général, doyen émérite de l'inspection générale d'histoire début septembre, qui a dit le programme ne doit pas être quelque chose qui enferme les professeurs dans une espèce de chose qu'il faudrait impérativement suivre de bout en bout, parce que ça n'aurait pas de sens.
Voilà ce que vous pourrez répondre à votre inspecteur, si votre inspecteur vous embête. Hein.
Non, mais Elsa était là ce jour-là, donc c'est vrai que ça faisait un plaisir, ça faisait très plaisir d'entendre ça de la bouche de quelqu'un quand même de reconnu dans l'institution et de...
Et pour juste, excusez-moi, pour revenir à votre entrée, là, les programmes au rabais, si ça sous-entendait aussi, parce qu'il y a beaucoup de ça dans les idées que, justement, dans ces territoires, on est obligé de se contenter de peu et de tout rabaisser le niveau parce qu'il ne faut pas espérer grand-chose. Là aussi, c'est écrit dans le livre qu'au contraire, il faut y aller. Il faut y aller et plus, enfin, moi, c'est mon sentiment, plus on fait de la qualité et plus on essaye de mettre un niveau d'exigence fort et plus on les attrape. Et ça suit.
Il faut y aller. Vous pouvez donner un exemple concret.
Il faut y aller. Oui, il est concret dans le livre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à, par exemple, à lire de grands auteurs.
Vous donnez l'exemple de Victor Hugo dans le livre.
Oui, Victor Hugo, entre autres. Mais c'est-à-dire qu'à plein d'endroits où là, je l'ai vu moi-même, certains collègues peuvent se dire non, ça va être trop compliqué, ça va pas passer, c'est trop, on va attendre un peu, etc. Parce qu'il y a des lacunes, c'est vrai qu'il y en a. Mais du coup, on alimente un peu le système. Comme ça.
Alors, dans le livre, vous donnez l'exemple très concret de ce poème très connu de Victor Hugo, « Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne ».
Il y avait un spectre, justement, qui était passé déjà.
Ouais. Oui. Et, non, mais je veux dire, celui-là, par exemple, vous avez hésité, vous êtes dit
«
Ah non, ça pourrait être un peu trop compliqué ».
Non, je n'ai pas hésité deux secondes.
Voilà.
Non, j'hésite pas.
Ils adorent l'exigence. Honnêtement, ils adorent. C'est dingue. Et plus on pousse, plus ils en veulent, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que le titre est très bien trouvé, parce que c'est vivant.
Comment se manifeste ce besoin, cette demande d'exigence? Comment vous le sentez? Comment ça s'exprime?
Moi, personnellement, l'éducation musicale, ça va être par exemple un chant. Je ne vais pas faire une voix, je vais faire deux voix, trois voix. Je vais mettre trois écoutes, quatre écoutes au lieu de une ou deux.
Quatre écoutes, c'est-à-dire?
Alors, c'est-à-dire qu'en gros, le cours d'éducation musicale, il se saxe autour d'analyse d'extraits musicaux et d'un chant qu'on appelle le projet musical, qui est associé suivant une problématique qu'on a choisie. On est très très libre au niveau des programmes. Donc à partir de ce moment-là, je choisis toutes les œuvres que je veux, je choisis la question qui va les traverser et je les organise pour que ça fasse un tout. Donc voilà, et bien dans mes écoutes, je vais aller, je pourrais dire, bon, on va pas avoir le temps d'écouter parce que ça parle trop. Alors je vais mettre qu'une écoute ou deux écoutes. Maintenant, en fait, je vais en mettre trois, quatre. Et quand je vais faire mon chant, je vais faire un arrangement. Au lieu de garder une voix, évidemment, c'est plus simple de faire une voix en soi, d'apprendre une voix des enfants. Maintenant, je vais écrire deux voix, trois voix. Et je ne parle pas de canon, hein. Je ne parle pas d'un truc qui s'enchaînent. Je parle de, vraiment de trois voix qui se croisent.
Et quand vous faites répéter des morceaux aux élèves, vous les leur faites répéter à trois voix. C'est-à-dire
voilà, c'est ça, dans ma classe.
Il y a trois groupes.
C'est ça, exactement, sur des voix qui sont parfois dissonantes, qui se croisent, enfin des trucs qui, musicalement, sont assez péchus. Et franchement, plus
on... Sur le gospel, sur quel type de musique ?
Alors, le gospel, c'est plutôt des échauffements musicaux. Donc, mais sur le gospel, je vais rajouter des claps, je vais rajouter des chorégraphies, danser, ouais. Je vais rajouter ce genre de choses. Et franchement, ils adorent ça. Et j'ai pas un élève qui va pas se lever...
Bon, là aussi, ça déconstruit un préjugé, comme quoi les élèves de banlieue écoutent que du rap, par exemple.
Ah non, mais complètement.
Alors, ouais. Alors justement, vous donnez un exemple dans le livre qui est particulièrement intéressant, donc à propos d'un dies irae. Mmh. Alors déjà, si vous pouvez rappeler ce que c'est que le dies irae. Pour nos téléspectateurs abonnés ouais, de banlieue ou pas de banlieue, qui peut avoir une lacune.
Ouais, c'est une mélodie qui existe depuis très très longtemps, qui est religieuse, hein, qui fait « dies irae, dies illa », qui dit un jour de colère, qui est utilisé dans l'office religieux,
catholique, chrétien,
et qui a été réutilisé au fil du temps dans des œuvres très diverses, en fin de compte. Et moi, effectivement, j'ai construit un cours autour du dies irae, voir comment il évoluait au fil des âges.
Alors, un petit extrait de quatre versions successives du dies irae, et puis ensuite, vous allez faire comme si on était vos élèves, on va en parler. On écoute.
Allez, de cours.
Nos abonnés auront évidemment reconnu du grégorien, Lully, Berlioz et les frères Jacques. Qu'est-ce que vous faites de ce matériau-là en classe ?
Alors, déjà concrètement, on va l'apprendre, cette mélodie. Il y a quelques notes, elle est assez reconnaissable. On l'a bien entendue. Après, là, on a vraiment remonté le temps. Hein, vous les avez même enchaînés de façon chronologique. On va regarder comment il évolue. Après, là, quand vous m'en parlez, j'ai plein d'autres idées qui me viennent. Là, j'ai carrément envie de faire une séquence où c'est eux qui recréent leur propre chanson avec le dies irae. On peut faire ça sur ordinateur. On peut faire un groupe qui va mettre des percussions corporelles dessus. On peut faire un groupe qui va écrire une autre voix. Enfin, c'est déjà en train de fourmiller. Je suis déjà en train de me dire comment est-ce qu'on va pouvoir encore l'utiliser, ce dies irae. Et effectivement, il n'a pas forcément une connotation religieuse. Je parle surtout des frères Jacques, là.
Non, les frères Jacques moins, les autres plus, on va le dire.
Les autres, évidemment, beaucoup plus. Hein, surtout la première, évidemment, le chant grégorien.
Ouais.
A cappella, je pense, oui, c'est en cappella, il n'y a pas de... Et puis la symphonie fantastique, effectivement, où il est utilisé. Mais effectivement, voilà, c'est de leur montrer qu'en fait, une mélodie comme ça, elle peut vraiment traverser les âges et qu'elle a vocation à toujours évoluer.
Est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir une réaction, alors pour revenir un peu au thème précédent, du style « Ouais, mais monsieur, c'est quand même une musique catholique ».
Si, oui, bien sûr, on a eu ça.
Et alors
déjà, je leur dis que oui, tout à fait, oui. Je veux pas dire. Non, pas du tout. Bien sûr, je leur dis, et puis je leur dis que en fait, on n'est pas dans un office. Je les fais pas mettre à genoux, prier. Voilà, on est là pour l'apprendre parce qu'il fait partie d'une culture et pas du tout dans un cadre religieux. Et justement, de pouvoir, c'est pour ça aussi généralement j'associe le chant des frères Jacques à ça parce que je leur montre qu'il a pu être utilisé dans une musique dite profane, du coup. Mais oui, bien sûr, j'ai eu des réactions comme ça. Ça me semble tout à fait normal.
Alors, dernier thème, parce que le retourne et certaines d'entre vous doivent retourner à leur classe maintenant. Dernier thème, le dernier exercice, le machisme, c'est-à-dire que ces établissements, des territoires vivants ou perdus, seraient des endroits où souvent les filles passeraient un sale quart d'heure.
Oui, ils sont souvent pointés du doigt pour ça. Et là encore, on a pris un exemple parmi tant d'autres. Hein, dans les médias, on parle souvent de sujets. Et là, c'est Dossier Tabou, donc diffusé sur M6, présenté par Bernard de la Villardière. Il est allé sonder des élèves à la sortie des écoles, justement sur le port de la jupe courte.
Une partie de la jeunesse de France aurait-elle un problème avec le corps de la femme ? Le constat que nous avons fait au lycée est véritablement alarmant.
Au lycée général Gustave Monod, les élèves se mobilisent.
C'est la journée de la jupe aujourd'hui contre les discriminations envers les femmes. Tu veux un badge ?
Qu'en pensent les garçons ? Les avis sont partagés.
Moi, je trouve ça sympa, quoi. C'est pas provocateur ni rien. Y a pas de raison qu'elle se fasse insulter, quoi.
Je sais pas, ça devrait être normal. On est en France, quoi. Je sais pas.
Je pense qu'une femme a le droit de s'habiller comme elle veut, en fait. C'est une liberté comme une autre, en fait. Mais disons, si elle met une jupe trop courte et elle a des jambes, je sais pas, c'est un peu provocant, quoi. C'est l'image qu'elle donne, en fait. L'image qu'elle donne, bah, ça fait un peu une réputation, quoi. Par exemple, on va dire celui-là, avec le collant, on pourrait dire, ouais, c'est trop court, ouais, pourquoi elle fait ça et tout. On va te juger directement, en fait. Et donc, c'est une pute. Non, je rigole. Les gens, mais voilà, les gens, ils pensent ça. Les filles qui portent des jupes, elles peuvent porter des jupes. Mais voilà, il y a des limites.
Ouais.
Maintenant ça, on va dire que ça a changé, puisque les filles, elles mettent devant le jupe.
La jupe semble donc tout simplement menacée de disparition à l'école.
Voilà, tout simplement menacée de disparition. C'est intéressant parce qu'on a commencé cette émission sur les jupes trop longues et on la termine sur les jupes trop courtes. Vous parliez de la pression qui s'exerce sur les filles contre les jupes trop longues. Est-ce que vous avez constaté aussi une pression des garçons contre les jupes trop courtes, ce qui est sous-entendu par ce sujet de M6?
Alors, moi, je découvre ces images. J'ai plus la télé depuis des années. Alors, c'est, ça fait vraiment très étrange. Moi, je n'entends pas du tout ça dans les réflexions des adolescents garçons, qui des sont... Garçons. J'entends pas ça. Je constate que le journaliste parle de la femme, bon, alors que les élèves, jamais, ils parlent des femmes. La femme, moi, je ne sais pas ce que c'est, je ne suis pas au courant. Voilà, donc déjà, ça,
bon. Non, mais...
Non, mais vraiment, c'est important parce que...
La pression des garçons sur le thème, si t'habilles trop court, t'es une pute, c'est quelque chose qui jamais...
Mais ils n'ont pas dit ça. Ils ont dit, ça peut... En fait, ils parlent aussi de ce qu'ils entendent autour. Donc c'est... Enfin, je voudrais dire... J'aimerais bien dire que si on a écrit et qu'on a participé à Territoires vivants de la République, c'est bien, c'est pas les territoires vivants, c'est territoires vivants.
C'est quoi la différence ?
La différence, c'est qu'on stigmatise pas des territoires. Ce qu'on essaye de dire, c'est que c'est ici comme ailleurs. Ici comme ailleurs, les questions se posent. Oui, on va pas ignorer le fait qu'il y a encore beaucoup de discrimination envers les femmes dans la société française.
On ne parle pas de ça, on parle du lycée.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est lycée. Que le lycée, ce n'est pas quelque chose qui est hors sol. Un lycée, il est dans la société. Un lycée, il est traversé par les questions sociales qui se posent dans la société dans laquelle il est. Et nos élèves, ils sont, et là, on le voit quand même, ils disent bien aussi les risques. C'est-à-dire que quand ils disent « oui, c'est une pute, non, je rigole », mais en même temps, ils disent « oui, c'est un risque ». Que qu'une femme en cours, éventuellement, si on juge que sa tenue est trop provocante. Mais ils ne disent pas forcément que c'est ce qu'ils pensent, eux.
Non, pas dans le sujet qu'on vient d'entendre là, mais vous savez bien que c'est un discours qui revient souvent sur le thème. Voilà, ce sont des quartiers, et donc, par extension, des lycées dans lesquels s'exerce une pression des garçons sur les filles pour qu'elles ne s'habillent pas trop léger. C'est quelque chose que vous, personnellement, parce que j'interrogea la praticienne,
pardon,
n'avez jamais constaté, ni entendu.
Non.
Je trouve que les filles se défendent extrêmement bien. Et franchement, dans mon collège, il n'y en a pas une seule qui se laisse faire. Et
mais si elles se défendent, c'est qu'on les attaque ?
Non. C'est-à-dire que aucun garçon n'oserait leur faire une remarque là-dessus. Et j'ajouterais même qu'on fait la journée de l'élégance, on fait des oraux aussi, des oraux blancs, des oraux de brevet, où on leur explique que, comme tout oral, c'est important de bien présenter, c'est comme un entretien ou une interview. Et du coup, les garçons viennent bien habillés, et les filles aussi, et il y en a plein qui mettent des jupes, et j'ai encore le souvenir de cet élève qui avait mis une jupe au motif africain, très très courte, et tous les garçons disaient « Ah, t'es super jolie, ça te va super bien ». Enfin, vraiment aucune discrimination, et pas du tout de mauvais esprit. Et voilà.
Elsa Boutteville. Les petits garçons, les petites filles.
Non.
Non, mais pas sur la jupe, mais sur autre chose.
Oui. Bah, les petits garçons et les petites filles qui grandissent avec un temps où ils aiment bien plutôt être ensemble, un temps où ils ont besoin chacun d'être soit les filles entre elles, soit les garçons entre elles, mais rien de plus.
Mais cette question des différences garçons-filles est une question que vous abordez avec vos classes, sur laquelle vous essayez de les faire parler, s'exprimer.
Garçons-filles, bah ça je pense que tout ça rejoint le même thème, c'est le respect et la tolérance. Donc après, si on a ça, le respect et la tolérance, tout se décline à travers ces deux-là. Donc ça peut être garçon-fille, la religion, tout y passe. Mais à partir du moment où on a travaillé beaucoup sur ces deux notions-là, je trouve que tout se met dedans.
Ok, merci à tous les trois. Je le redis parce que je pense que c'est vraiment important. Je pense que c'est un des livres politiques les plus importants qui ait été écrit ces dernières années. C'est un livre absolument à lire. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.